événementiel, une émission proposée par Gérard. Du 4 au 19 mai prochain, le Centre d'animation municipale d'Aiguillon vous présentera la deuxième biennale internationale de gravure et d'estampes. Un vrai régal pour notre département, je dirais même pour la région finalement, parce que c'est un rendez-vous exceptionnel. Il y a eu cette première qui fut tout à fait fabuleuse, et cette deuxième sera certainement avec la même, le même intérêt, la même importance, j'en suis sûr. Pour parler de cet événement, nous avons la chance d'avoir ici Madame Martine Rousset. Elle est la secrétaire de l'association William Beck France, hein, qui est bien connue dans notre région puisqu'elle est, elle est basée du côté de Nérac, et c'est une richesse évidemment pour notre département. L'accompagne bien sûr André Furlan, qui n'est autre que le président de William Beck France, mais nous avons aussi, surtout, Jackie Langlais, qui lui représente le centre d'animation municipale en tant que directeur artistique du musée d'Astrac du côté d'Aiguillon, et qui est un peu le porteur d'eau à alimenter la qualité justement culturelle de cette ville d'Aiguillon. Il fait un travail magnifique depuis de très très nombreuses années. Je crois qu'au départ, ça a été le cinéma, et puis il y a eu plein de choses. Hein. Oui. C'est vaste, c'est dense, c'est très important. C'est aussi une question d'amitié, c'est aussi une implication aussi, ou une réunion plutôt d'intérêts communs, ce besoin finalement de rencontre aussi. C'est, la grande famille culturelle se retrouve avec des personnalités d'exception, et c'est le cas aujourd'hui avec les trois personnages qui sont réunis autour de ces micros dans le cadre de cette émission événementielle. J'ai de la chance, nous avons, amis auditeurs, de la chance d'avoir une émission aujourd'hui tout à fait surprenante, j'en suis sûr, pour vos oreilles, et je l'espère, je le souhaite, et fabuleuse pour la découverte de ce que l'art peut nous apporter individuellement. Merci, madame, merci, messieurs, d'être à notre micro pour nous conter cette histoire. Du 4 au 19, le centre d'animation municipale va mettre les petits plats dans les grands, dans un lieu aussi qui devient un endroit mythique et drôlement important. Monsieur Langlais, dites-nous
tout. Oui. Bon, plusieurs lieux en l'occurrence, puisque il y aura trois expositions qui seront autour de la gravure. Donc les trois lieux que vous connaissez certainement déjà, puisque je vous rappelle qu'on travaille aussi sur le Festival international de l'aquarelle et du carnet de voyage qui a lieu au mois d'octobre. Et c'est un petit peu le même format que nous allons faire cette année avec la gravure.
Quelque chose qui fonctionne parfaitement bien, c'est quelque chose qui a quoi ? C'est 20 ans d'expérience, d'histoire aussi ?
Le centre d'animation, il a plus que ça. Hein. Il y a une trentaine d'années que ça existe. L'association existe depuis une trentaine d'années.
Mais autour de la peinture, je veux dire.
Autour de la peinture, le Festival international de l'aquarelle, ça fait 12 ans. Et la gravure, ça sera la deuxième biennale.
Alors, c'était un rendez-vous. C'est devenu le rendez-vous du département. Et je disais de la région. Et même peut-être sur le plan international, puisque c'est son mot exact.
Absolument. En même temps que, enfin, au niveau du Festival international de l'aquarelle, nous accueillons chaque année 50 artistes d'une douzaine de pays. Et chaque année, on fait en sorte qu'il y ait un renouvellement, si vous voulez, pour ne pas lasser les personnes qui viennent visiter nos expositions. Et ça sera un petit peu, c'est ce qu'on cherche aussi à faire avec cette biennale de la gravure.
Vous allez y arriver, j'en suis sûr. De toute façon, c'est bien parti. Les outils, vous les avez. Les hommes pour les façonner et les utiliser, vous les avez aussi.
Absolument.
C'est une équipe fabuleuse, un mot là-dessus, justement.
On a une équipe de 30 bénévoles qui œuvrent de façon quotidienne, puisque c'est une implication qui va durer sur 3 semaines, même plus, hein, plus toutes les personnes qui vont héberger, toutes les personnes que nous allons recevoir, parce que nos artistes, nous faisons faisons en sorte de les accueillir du mieux que possible et nous les hébergeons dans les familles et ça, ils sont très contents d'être hébergés dans les familles.
Alors ça, c'est le côté humain exceptionnel. Ouais. C'est-à-dire que, alors finalement, le département de Haute-Garonne et la ville de d'Aiguillon ne perd pas du tout son sens du savoir-vivre et recevoir.
Tout à fait.
C'est une richesse, ça. C'est le petit plus. Au départ, c'était peut-être pour des questions économiques, mais aujourd'hui, c'est devenu un faire valoir et savoir.
Absolument.
À partager.
L'Haute-Garonne est un pays d'accueil. Hein. De tout temps, on a accueilli des personnes qui sont venues travailler dans les champs de tous les pays européens. Et c'est un petit peu pareil pour la culture. Il ne faut pas oublier qu'Aiguillon se situe au confluent du Lot et de la Garonne, donc au confluent de toutes les richesses.
C'est le département aujourd'hui, à travers ce travail qui est réalisé, peut être fier de ce boulot que vous faites, vous êtes fier, suppose, et je l'espère, et je peux en témoigner, c'est un travail exceptionnel finalement.
Écoutez, nous, on essaie de faire en sorte, enfin, on essaie de travailler au mieux, on essaie de pas faire de la demi-mesure, parce que, bon, quand on travaille, je pense qu'il faut, aller jusqu'au bout des choses. Et je crois que jusqu'à maintenant, que ce soit la municipalité, la communauté de communes et le département nous ont toujours suivis.
Alors c'est aussi un travail collaboratif. C'est un mot beau, hein, finalement, intéressant. Justement, avec notamment l'association William Black. Ça, c'est quelque chose qui est né l'année dernière, je pense. C'est intéressant, finalement, parce que ça permet des ouvertures supplémentaires.
Absolument. Bon, il ne faut pas oublier qu'on est quand même en milieu rural, que le milieu rural n'est pas tout à fait soutenu comme les agglomérations bordelaises ou toulousaines. Donc, il faut se défendre avec nos moyens et il faut s'unir pour être plus fort.
Alors, justement, c'est une question également pour André Furlan, le président de William Beck France. Pourquoi vous avez choisi finalement le Lot-et-Garonne en tant que tel pour installer votre savoir-faire, votre passion autour de la culture et la partager avec, par exemple, une ville comme celle d'Aiguillon et puis ce groupe?
Alors, pour revenir au début, comme je vous l'avais dit dans une émission précédente, oui. Bon, je suis arrivé des États-Unis en 2010 pour des raisons tout à fait familiales. Et avec une équipe d'artistes intellectuels de la région, on a décidé de créer une association culturelle parce que ça nous semblait naturel et normal. Et de fil en aiguille, très rapidement, j'ai fait la connaissance de Jackie et vice-versa. On s'est rencontrés de manifestations culturelles et il y a eu deux éléments qui sont clairs. Il y a eu qualité et confiance. Et je crois que c'est vachement important, Jackie, je le dis aujourd'hui et devant vous. Et en fait, on a tout de suite compris que, bon, on s'est parlé, on a échangé et on s'est fait confiance et il m'a présenté son équipe municipale de région comme je lui ai parlé de la mienne et tout a fonctionné comme ça. Donc la biennale, donc pas l'année dernière mais il y a 2 ans puisqu'on est à la deux. Donc on a dit c'est des gros projets mais non on est capable de les faire, nous c'est ce qu'on veut et depuis ben on se suit, son équipe, notre équipe, ben, je crois qu'on n'a pas changé, en fait.
Tout à fait.
Martine, vous, la secrétaire, Martine Rousset, vous, la secrétaire de cette association. Alors, vous êtes parisienne, hein. Vous avez vécu dans un lieu plus que mythique, puisque c'est Montmartre, où vous avez vécu en tant qu'enseignante, d'une part. Aujourd'hui, à la retraite, vous avez décidé de retrouver le département, de croiser le département du Haut-et-Garonne. Et votre passion pour la culture, pour la peinture, un lieu aussi mythique que ce lieu parisien, c'était assez naturel pour vous de rejoindre une organisation, et pourquoi pas celle-là? Ou comment ça s'est fait finalement?
Alors, je pense que c'était peut-être pas naturel, mais c'était essentiel. C'est-à-dire que...
Point d'équilibre.
Voilà, point d'équilibre. Revenir, moi c'était revenir dans le Lot-et-Garonne après 50 ans passés ailleurs, ou à peu près, peut-être pas tout à fait, mais presque. Et je pensais trouver une espèce de désert culturel. Et bon, ben voilà, je l'avoue. Et en fait, c'était pas ça du tout. Et j'ai trouvé qu'il y avait de très très belles énergies. Il y avait des énergies, il y avait de la qualité, il y avait de la pédagogie, et j'étais sensible, et c'est comme ça que j'ai rencontré André, et au-delà de tout ça, il y avait de l'accueil, c'est-à-dire que la porte est ouverte, avec le sourire, avec de la bienveillance, avec des bras ouverts, en disant, mais viens avec nous, on a besoin de toi. Donc ça m'a paru naturel. Alors effectivement, il y avait une différence par rapport à Paris et j'avais très peur de cet ennui. Eh ben, il n'y a pas d'ennui du tout, quoi. Alors aujourd'hui, je partage un peu mon temps entre les deux, mais j'ai rencontré André, puis Jackie et d'autres. Et j'ai rencontré de très très belles personnes, des gens très investis. Et puis là, je vois qu'aujourd'hui, autour de la table, ça continue, donc c'est bien.
Alors donc, le milieu culturel départemental dépend évidemment de ce que font les hommes sur le terrain, et les femmes aujourd'hui. Mmh. Et c'est une vraie richesse finalement de vous être associé à ça. Un mot peut-être là-dessus, quel regard vous portez, ce regard extérieur et nouveau sur notre département et sur ce département d'accueil aujourd'hui autour de la culture en particulier?
Ben, je trouve qu'il y a de, comme je disais tout à l'heure, il y a de très belles énergies, c'est-à-dire que les gens ne se restent pas claquemurés derrière leur porte et devant leur poste de télé pour faire court ou dans leur jardin. Ils vont les uns vers les autres, ils ont des intérêts divers. Il y a un véritable enrichissement que je trouve qui est mis en valeur dans les villages et dans le côté rural de ce département qui est quand même très rural effectivement, mais il faut pas le raccourcir ou le symboliser uniquement par le côté agricole. Il y a des gens qui réfléchissent, il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui se cultivent, il y a des gens qui recherchent, il y a des gens qui ont envie de se rencontrer et de partager. Et je trouve que les œuvres d'art entre autres, puisqu'on est là pour parler de ça, mais ça pourrait être la musique ou autre chose, mais là c'est les œuvres d'art, elles sont là, il y a des énergies qui font qu'on les trouve, les gens se rencontrent et on les montre et on échange. Et quand ça se fait avec un minimum de pédagogie, ce que j'ai vu aussi bien à Aiguillon, parce que je suis déjà allée, qu'avec les expositions que André a présidé, on va dire, puisqu'il est président de l'association, moi j'ai été extrêmement sensible à l'accueil des gens, à l'accompagnement des gens quand on visite une exposition, ce qui n'existe pas dans les musées parisiens.
Alors ce qui était important, ce que vous venez de dire, ça veut dire finalement que aussi bien pour vous, Monsieur Langlais, que pour vous, André aussi. Est-ce que c'est si tu ne viens pas à la culture viendra à toi?
Ah oui, tout à fait.
C'est une symbolique.
Oh, c'est 250%.
Je pense que c'est essentiel. Hein. C'est essentiel. Il faut aller vers les gens. Il faut la culture, elle appartient à tout le monde. Hein.
Alors justement, rentrons si vous le permettez dans le vif du sujet. Cette deuxième biennale internationale de gravure et estampes du côté d'Aiguillon qui aura lieu, je le rappelle, alors il y a des lieux très importants, du 4 au 19 mai, faudra y être. Monsieur Langlais, dites-nous tout. Une semaine, plus qu'une semaine, évidemment. Cette deuxième fête de l'estampe, qui est mise en lumière, et en particulier, dites-nous tout. Allez. Alors, le programme.
Le programme, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, c'est une grosse manifestation autour de la gravure, qui va se diviser, si vous voulez, en trois expositions. Une première exposition que j'ai appelée, si vous voulez, une exposition patrimoine, que nous organisons en collaboration, en partenariat avec l'association William Blake France, avec André Furlan qui est ici représenté, où nous allons présenter une trentaine d'artistes du 18e au 20e siècle. Une autre exposition qui aura lieu, celle-ci, à l'espace Théophile de Viau qui se situe derrière la mairie d'Aiguillon, où là, nous allons recevoir une rétrospective d'un artiste qui s'appelait Léo Drouin, qui est un graveur du 19e siècle. Et puis un troisième lieu, donc avec le centre culturel, où nous recevons là une quinzaine d'artistes contemporains, 15 artistes contemporains qui sont, si vous voulez, les nouveaux talents de la gravure aujourd'hui.
Un mot peut-être pour distinguer ces trois lieux un peu pour donner envie à l'auditeur un visiteur, de quelle manière vous souhaitez ou vous souhaiteriez qu'il puisse faire cette rencontre avec l'art, quelle est pour vous la meilleure des manières?
Alors si vous voulez, d'abord il faut dire que ce sont des espaces qui se situent tous en centre.
Pas loin.
Voilà. Donc ça c'est important, ça veut dire qu'on pose sa voiture et qu'on fait
un
cheminement à pied, on va visiter les différents lieux. Ce que je voulais dire aussi par rapport à la gravure, c'est que la gravure, c'est pas ce qu'on imagine, Enfin, je veux dire, il y a de nouvelles techniques aujourd'hui. Il y a beaucoup d'artistes qui font des œuvres qui sont très très colorées. Autrefois, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, on faisait plutôt de la gravure classique où on représentait un paysage. Bon, ça, il y en aura. Hein, l'exposition, la rétrospective Léo Drouin dont je vous parlais tout à l'heure, elle présente des paysages. C'est tout à fait intéressant, des paysages qui ont été réalisés dans les années 1850. Et donc ces paysages, vous allez retrouver donc des villages du Lot-et-Garonne qui ont été dessinés en 1850. Alors ça c'est intéressant. Par exemple, vous allez voir le village de Port-Sainte-Marie avec les pieds dans l'eau. Hein, puisqu'on a oublié
que et oui parce qu'on a oublié que Garonne elle bouge hein.
Voilà. Ouais. Donc Garonne elle bouge et puis elle a surtout été détournée de son lit quand on a construit la voie ferrée et puis la route devant Port-Sainte-Marie. Voilà. Et puis donc voilà, vous aurez des parce que si vous voulez, Léo Drouin est un graveur qui avait eu une commande de l'État au départ, au 19e siècle. Il avait eu en 1867 une médaille d'or au Salon de Paris. Et puis, il a eu une commande de l'État. L'État lui a demandé de réaliser des dessins sur le patrimoine aquitain. Et donc, il a réalisé, mais c'est énorme, 1500 gravures et dessins sur tous les monuments et le patrimoine aquitain. Un peu moins en Lot-et-Garonne, mais il avait un ami qui habitait au château de Roquepiquet, c'est vers Verteuil-d'Agenais, je ne me trompe pas, et à cet endroit-là, si vous voulez, il venait se ressourcer. Et Léo Drouin donc a réalisé quelques gravures qui concernent le Lot-et-Garonne, notamment sur la vallée du Lot. Ça part de, on va voir des gravures qui ont été réalisées à Fumel, à Villeneuve-sur-Lot, à Casseneuil, et puis un peu à Port-Sainte-Marie, puis toute une série de dessins qui ne seront pas forcément exposés, mais qu'on pourra retrouver dans les ouvrages qui ont été réalisés sur Léo Drouin. Il y a 20 gros ouvrages qui font 300 ou 400 pages qui ont été réalisés, qui ont été édités sur Léo Drouin. Et le numéro 19, rappelez-vous de ça, on y retrouve tous les dessins et les gravures du département. Voilà. Et ces ouvrages, ils seront mis en vente, ils seront visibles à la Maison de la Presse à Aiguillon pendant toute la durée de l'exposition. Au niveau de l'exposition elle-même, Léo Drouin, il y aura des panneaux qui présenteront son œuvre et sa vie. Il y aura une cinquantaine de gravures qui seront exposées et puis des petits fascicules qui seront mis à disposition du public. Et puis on n'a pas oublié non plus, comme le disait
Martine,
voilà, excusez-moi. On n'a pas oublié non plus tout le côté pédagogique qu'il faut apporter à cette affaire, c'est-à-dire que dans chaque salle d'exposition, il y aura un écran de télévision où on présentera les différentes techniques de la gravure, etc. Voilà, ça c'est important.
On va, si vous le permettez, écouter votre tout premier choix musical et on se retrouve juste après en rappelant, pour ceux qui nous rejoindraient, que nous sommes en train de vivre une émission événementielle autour de cette deuxième Biennale internationale de gravure et d'estampes à Aiguillon qui aura lieu du 4 au 19 mai prochain.
Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. And she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. But I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah, hallelujah. Hallelujah,
hallelujah. Un moment délicieux, agréable. Cette version, l'une des immenses versions autour de ce Alléluia bien connu aujourd'hui, qui finalement peut-être servirait d'élément musical à la vision et voilà. Alors peut-on écouter la peinture, peut-on la lire en musique? Je trouve que ça pourrait être quelque chose d'intéressant, justement, chose que vous pourrez aller faire, pourquoi pas, du côté, et surtout, il vous faudra y venir du 4 au 19 mai prochain, du côté du centre d'animation municipale à Aiguillon, qui va ouvrir ses portes à la deuxième biennale internationale de gravure et d'estampes. Alors, pour inviter autour de cette émission et parler de cet événement, nous avons Jacques Langlais, pardon de commencer par vous, qui est le directeur artistique du musée d'Astrac, pardon, qui est un musée très très intéressant qui ouvre ce lieu aussi, qui est un lieu un peu emblématique et passionnant finalement. Les murs parlent en fait, hein. Les murs ont une forme d'énergie, je pense aussi, qui se prête complètement à des expositions comme celle-ci, voilà. Et bien sûr, il y a André Furlan, le président de William Beck France, et puis accompagné aujourd'hui de sa secrétaire, qui n'est autre que Martine Rousset, elle qui vient de rejoindre un petit peu cette association et qui apporte son regard et son complément d'information autour de cette réussite, départementale, régionale, nationale, voire internationale. Jackie, on a commencé, on disait tout à l'heure qu'il y avait un personnage essentiel, c'est pas forcément personnage phare, mais à travers ses gravures et à travers son histoire, c'est aussi non seulement l'histoire d'un homme, mais c'est aussi l'histoire d'un département à travers la gravure. Vous le présentiez tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y aura de plus qu'il faut surtout pas louper?
Voilà, donc on a parlé de Léo Drouin, et puis il y aura aussi, parce qu'il ne faut pas les oublier, tous les artistes artistes qui œuvrent aujourd'hui pour faire avancer la gravure. Hein. On a beaucoup d'artistes contemporains. Il y en a en Lot-et-Garonne qui sont pratiquement peu connus. Hein.
Bon, pas suffisamment connus, on va dire,
mais qu'on retrouve dans des lieux aussi prestigieux, par exemple, que le Grand Palais à Paris. Iris Miranda, qui habite la Vardac d'ailleurs, et qui était le mois dernier au Grand Palais. Il y a aussi Ernest Van Straten, qui est aussi un artiste talentueux. Enfin voilà, il y en a plusieurs en Lot-et-Garonne qui ne sont pas forcément très connus, mais qui font avancer les techniques, parce que ce sont des gens qui expérimentent. Et je crois que si nous avons choisi la gravure, si nous avons choisi de donner un nouvel élan à la gravure, à Aiguillon, c'est parce que nous sentons qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a des gens qui veulent créer, qui veulent faire avancer les techniques, si vous voulez.
Justement, que va apporter l'association Willem Beck dans cette aventure aujourd'hui?
Alors,
vous venez avec qui, avec quoi?
Alors nous, c'est un hommage. Bon, en fait, Jackie et la ville d'Aiguillon, entre autres Jackie, sélectionnent de grands artistes des quatre coins du monde, quoi, il faut le dire, contemporains. Auquel je dois dire j'ai un grand respect, parce que certains que je connais, je ne vais pas les mentionner parce que je vais laisser Jackie en parler, mais qui sont quand même comme de l'Est de l'Europe, hein, qui sont quand même de très très haut niveau et vraiment de grands maîtres vivants, point à la ligne. Voilà, il faut pas avoir peur de dire les mots. Donc nous, eh bien, comme eux, hein, ils sont influencés par les grands maîtres. Donc notre tâche est d'apporter des œuvres, donc en accord avec Jackie, nous tous, l'asso, donc de représenter les anciens maîtres de différents pays du monde aussi, comme par exemple Pablo Picasso. On revient.
C'est les liens, quoi.
C'est les liens, voilà. On a une œuvre de Salvador Dali, mais que des originaux, de Mark Stock. Bon, ça parle peut-être pas à tout le monde Mark Stock, mais quand on va aller voir ce que c'est, qu'on va découvrir. C'est comme on a des noms, comme je vous le dis, Dali, Picasso, on a Boulaire, on a un Camille Corot, on a les environs de Rome, hein. Voilà, gravure originale, Camille Corot. Bon, ça parle au français. Mais voilà, c'est un petit peu l'échelle. Ils sont là, on a Louis le Breton, et j'en passe, hein. On a des articles, bon, il y a Paul Madonna aussi, rebelote, puisqu'il a fait tellement un tabac l'année dernière lors d'une apparition dans le sud-ouest de la France, entre autres à la Vardac. Donc Jackie m'a expressément demandé d'une exclusive, donc une édition spéciale, gravure finie main. Bon, ça c'est la ville d'Aiguillon, entre autres Jackie qui me l'a demandé. Donc il y aura un Paul Madonna aussi qui est présenté, original. Donc de grands maîtres comme ça, hommage, à part Paul qui fait partie des contemporains, je dirais, puisqu'il est vivant. Et puis voilà notre rôle en fait, et pédagogiquement aussi, de présenter les grands maîtres sur fiche technique, qui sont les œuvres, de quoi elles parlent, qu'est-ce que c'est, et ainsi de suite. Voilà.
Le côté pédagogique est important. Au total, vous venez avec combien de...
Alors nous, on a à peu près 35 œuvres, hein, ce qui est pas mal. Hein. Et grandes, petites, ce qui est pas mal, hein, 35 originaux.
Au total, Monsieur Langlais, la globalité de cette biennale, ça veut dire quoi
Ça veut dire...
Un nombre d'œuvres.
Ça fait beaucoup.
En nombre d'œuvres.
Non, pardon, en nombre. Excusez-moi. En nombre d'œuvres.
En nombre d'œuvres, je sais pas, ça va faire 200 œuvres.
On pourrait dire œuvres aussi.
200 ou 200 à 300 œuvres. Parce qu'il y a, si vous voulez, il y a toutes les œuvres qui vont être exposées. Mais il y a toutes celles que nous allons présenter aussi dans des portfolios et qui seront également mises à la vente, si vous voulez. Et après, il y a toutes les rétrospectives et puis les œuvres de l'association William Blake qui ne sont pas à vendre, bien évidemment.
Voilà. C'est des collections protégées.
Oui, parce que là, c'est aussi un lieu finalement où le mécène ou celui qui veut simplement acquérir une œuvre peut le faire à ce jour-là.
Absolument.
Hein, parce que c'est aussi la porte ouverte à... Pardon, j'utilise un mot qui est faux. Marché, je sais pas, mais c'est un endroit où on peut venir faire son marché d'art et accompagner ces artistes. Alors, qui va venir se vendre ce jour-là, par exemple?
Alors, si vous voulez,
on va pouvoir acquérir qui?
Voilà. Donc, on est conscient que si vous voulez. Le grand public ne connaît pas bien la gravure. Mais, si vous voulez, on s'est rendu compte aussi qu'il y a des pays où la gravure connaît une certaine vigueur. Et par exemple, vous allez voir des graveurs qui vont venir du Pérou. Alors, ces graveurs-là, je vous assure, c'est fabuleux. Ils font un travail qui est, comme le peuple péruvien, très joyeux et c'est plein de couleurs. Donc, vous allez voir des grandes gravures qui font presque un mètre de hauteur ou de largeur et qui représentent souvent des thèmes chers au Pérou, hein, la Pachamama, la mère nourricière, si vous voulez. Et puis, voilà. Donc, vous aurez vraiment des œuvres très diversifiées. Certaines qui ont été faites au départ sur des supports en bois, donc gravées sur du bois, d'autres qui ont été gravées sur du cuivre, d'autres qui ont été gravées sur du plexiglas, etc., etc. Donc, on vous présentera en plus toutes ces techniques sur les écrans dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Ils viennent de Cusco, je crois, c'est ça?
Ils viennent de Cusco, oui. Alors, donc, on a créé un lien, un partenariat avec l'université des Beaux-Arts à Cusco. Et donc, Monsieur Carrasco, qui est le recteur de l'université de Cusco, va venir à Aiguillon pendant 3 semaines avec un professeur et 2 élèves de l'école de gravure. Il est le directeur général de l'université de Cusco, qui est la maison mère en fait. Et vous avez ensuite plusieurs entités qui sont tout autour, enfin au Pérou, et chaque entité a sa propre personnalité. C'est-à-dire, vous allez avoir une école qui va travailler plutôt sur la restauration des œuvres d'art, une autre sur le modelage. Enfin voilà. Et donc Monsieur Carrasco est le directeur général de l'Université des Beaux-Arts au Pérou.
Alors, on savait le Pérou assez intéressé par la dynamique et impliquer les jeunes autour de la musique notamment. Aujourd'hui, l'art est une règle aussi, c'est-à-dire que la musique et l'art fait tout un tout. Comment se fait-il qu'un pays, pardon, aussi fragile, peut-être économiquement parlant, puisse arriver à maintenir ce niveau artistique encore? Quelle explication les uns et les autres vous pouvez apporter à cet état de fait finalement?
Je pense que ça tient à leur culture, hein. Ce sont des gens qui aiment pratiquer la musique, qui aiment chanter. C'est une façon pour eux de se réunir, je pense.
Et la plus grosse richesse, c'est la création. On parle de
créer,
c'est de créer. Donc c'est un petit peu ce qu'on va laisser au futur. C'est notre identité. Et au travers de l'art, c'est la plus grosse force. Vous imaginez détruire, comme beaucoup l'ont compris, la culture d'un pays, c'est détruire l'identité. T'as créé. Et tu as des grands maîtres qui sortent de là. Point.
Tout à fait.
Voilà.
Et là, il y a des choses absolument originales, hein, on est bien d'accord.
Oui,
vont surprendre.
C'est fabuleux. Mais c'est incroyable. C'est du haut niveau.
Très
je voyage dans le monde entier, c'est du haut niveau.
Ouais.
Point.
Et la meilleure, enfin, ce que vous disiez est très juste parce que, par exemple, il y a une communion. Par exemple, quand il y a les fêtes religieuses à Cusco, l'Université des Beaux-Arts est partie prenante, c'est-à-dire que c'est l'Université des Beaux-Arts qui réalise les chars qui vont défiler dans la ville. Vous voyez, donc il y a un lien qui est étroit avec la population. Un peu plus peut-être que chez nous, hein, où les Beaux-Arts c'est devenu un petit peu quelque chose d'élitiste, où on sépare un petit peu
tout à fait.
Et puis le besoin aussi de participer pour le groupe, enfin pour la population, se montrer très vraiment au lieu de faire un travail un peu trop en interne ou individuel, quoi.
Tout à fait.
C'est qui a tendance peut-être à tuer l'art, justement.
Ils sont socialement intégrés et puis voilà. Ça fait partie inhérente de leur culture, comme tu le disais.
Non, mais c'est ça.
C'est là dans leur image. Si vous le permettez, on va écouter votre second choix musical. Alors, on va changer de registre. On passe à une œuvre que vous aimez bien. Et alors là, un compositeur exceptionnel, Beethoven.
Pourquoi? J'aime bien parce que c'est l'hymne européen et je crois qu'il y a, tout le monde ne sait pas que c'est Beethoven qui l'a créé.
Oui.
Donc c'est pour ça.
C'était un choix qui avait été fait.
C'était un choix.
Est-ce que c'est politiquement correct?
L'hymne européen, bien sûr, bien reconnu, c'est logique. Voilà. Donc l'Europe, plus que l'Europe, puisque là, c'est le monde entier qui va être réuni autour de cette deuxième biennale internationale de gravure et d'estampes du côté d'Aiguillon. Un rassemblement drôlement important pour notre département, mais pas que, puisque ça va être du 4 au 19 mai prochain. Il faudra être présent là avec des artistes contemporains, des œuvres originales, Picasso, notamment Dali, et plein d'autres, bien entendu. Justement, si vous nous rejoignez, nous avons la chance d'avoir Madame Martine Rousset, qui est la secrétaire de William Beck France, qui est partenaire de cette jolie opération avec son président André Furlan, et Jacques Langlais, qui est le directeur artistique du musée d'Astrac, d'une part, d'Aiguillon, et puis responsable surtout du centre d'animation municipale, en charge de cet événement tout à fait important dans le cadre de la 7e fête de l'estampe notamment. Voilà, autant de choses qu'il faudra aller vivre du côté d'Aiguillon. Dans l'ensemble de ce que vous avez pu réunir, s'il y avait une œuvre qu'il faudrait surtout pas louper, ça serait laquelle? Et là, c'est votre choix, Jackie Langlais. Je vais poser la même question à vous, Martine Rousset, et à vous, André Furlan.
Alors, une œuvre parmi les artistes.
Oui, les 200 qu'il y a là. S'il y en a une.
C'est très difficile parce que si vous voulez, c'est tellement différent. C'est tellement différent. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, quand vous allez graver sur du bois et faire donc une impression ensuite, d'un papier que vous allez passer sous la presse, et vous allez obtenir une estampe qui va être complètement différente si vous avez gravé au départ sur du bois ou si vous avez gravé sur une feuille de cuivre. Donc voilà. J'allais dire que la gravure, c'est un art protéiforme. Donc il y a presque autant de techniques de gravure qu'il y a de graveurs. Donc c'est très compliqué votre question. Mais c'est vrai que il faut dire quand même deux mots sur notre invité d'honneur qui s'appelle Yuri Yakovenko.
Oh là là.
Qui est un.
Vous avez tout dit. Ah, il faut pas louper.
Yuri Yakovenko, qui est un des grands maîtres de la gravure contemporaine. C'est un grand maître qui va venir à Aiguillon. Il vient avec
il
son.
Ouais.
Il vient. Il sera là pendant 3 jours. Il va rester pour l'ouverture de la biennale. Et puis il vient avec son imprimeur parce que ces gens-là ont aussi des gens qui impriment pour eux. Ils ne font pas le travail de presse. Ils le font faire par des artistes,
des spécialistes,
des spécialistes.
Comme les grands maîtres du 19e français, Picasso, Degas.
Tout à fait.
Oui, pareil.
Voilà. Ils confiaient ça à des artisans.
Tout à fait. Cadar, l'imprimeur parisien très connu. On est dans le même circuit. Voilà.
Parce qu'il ne faut pas oublier que la gravure, c'est aussi bien une forme artistique que une forme artisanale. C'est ça qui est très important.
D'ailleurs, c'est un mot magnifique, artisan ou artisanat, parce que c'est justement, il y a le mot art déjà derrière au départ.
Et vous savez qu'au XVIe siècle, le mot était le même.
Oui, c'était le même.
C'était le même mot, voilà.
Et c'est une vraie richesse. Alors, pardon, j'avais posé une question embarrassante donc à vous, évidemment, Jackie, mais est-ce que là, André, vous avez...
Comme Jackie depuis longtemps, quoi. J'ai
tombé dedans
depuis que je suis gosse. Moi, c'est bon, j'ai continué. C'est un peu comme des grands collectionneurs, quoi. C'est qu'est-ce qu'on n'a pas. Donc on regarde, évidemment, on a ça. Et dans les musées, c'est pareil. J'ai déjà vu ça, je veux autre chose. Mais moi, il y a deux choses qui me passionnent à la Biennale. C'est déjà de rencontrer les artistes. Alors là. Non, mais attendez, ça c'est énorme, parce que c'est un boulot énorme, on a une concentration de grands maîtres qui débarquent.
Ils seront combien, Jackie, aujourd'hui?
Il y a une quinzaine
qui seront présents.
Alors là, celui qui est sur l'affiche, c'est celui qu'on vient de mentionner, or j'ai envie de le connaître à mourir, quoi. Et j'adore son travail, donc j'en ai jamais caché, comme Jackie le sait, il y a plein d'artistes qui sont à la Biennale, de haut niveau, Van Straten que je connais, j'en connais bien, que je respecte, et comme tu le sais, il y en a d'autres, que ça soit les Bordelais et ceux qui arrivent des autres pays, que j'adore, mais celui-ci, c'est vraiment... Enfin, moi, personnellement, c'est énorme. Voilà.
Martine Rousset.
Bon, alors moi, plus modestement, il y a effectivement les personnes qu'on rencontre, mais il n'y a pas que les artistes, il y a les gens qui aiment les artistes et qui permettent justement de faire progresser et la connaissance des œuvres et la connaissance de la vie de tous ces gens et de leur culture, parce que tout ça, ça ramène à la culture finalement et à la source, et ça, c'est important. Et puis après, moi, personnellement, je suis toujours sur le bord de l'émotion, et dans les œuvres qu'on présente, enfin, qu'André a proposées, il y a les portraits. Il y a un portrait de Jacques Boulaire que j'adore et un portrait de Picasso, faisons simple, que j'adore aussi. Voilà.
Yes.
Bon, au moins, voilà. Il n'y avait pas d'avis, il paraît. Personne n'avait d'avis. Bon, d'accord. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est je pense que sur cette biennale, il faut penser à prévoir du temps. C'est-à-dire que vous vaut mieux y passer une journée à minima.
Deux, trois fois.
Oui,
tout à fait. Et puis venir en deux ou trois fois. Justement, y venir, y revenir, c'est un conseil que l'on peut donner aux visiteurs. Hein. Surtout si en plus on ne connaît pas forcément et qu'on en a envie. L'effort de curiosité est absolument nécessaire.
J'allais dire, il faut absolument être curieux, quoi. Quand on connaît pas, quand on se dit bon,
je
ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas ce que c'est. Allez voir, venez voir avec vos enfants surtout.
Ah ouais, là si on est dans une période, il faut le faire. Ouais.
Ce sont des expositions qui sont gratuites, ce sont des expositions que vous pourriez voir dans des villes comme Bordeaux ou
New
donc
York,
il ne faut
dans
pas
San
hésiter.
Francisco, ouais,
voilà,
en ce moment, de Print Fair San Francisco.
Tout à fait.
Et on est à 50€ pièce. Print Fair, aujourd'hui, The Print Fair San Francisco mondial, exactement la même, il est même le calendrier d'artistes, 50 dollars pour un pass de 3 jours. Ouais. On est dans le délire. Ouais. Et on a pareil.
Alors que là, c'est gratuit.
Moi, je voudrais ajouter que, à la manière dont on fait visiter les musées avec les enfants, puisque moi, j'ai cette expérience-là, en général, on vient, on peut balayer et voir l'ensemble. Mais on revient, on fait un focus sur une ou deux œuvres.
Absolument.
Et là, on détaille et on essaie de comprendre comment ça a été fabriqué, pourquoi ça a été fabriqué comme ça et pourquoi ça nous plaît. Pourquoi ça nous touche,
voilà. C'est là la pédagogie. Hein, voilà. Le service de madame va être important. L'enseignante peut aider. Voilà. Mais un passionné, simplement, monsieur Langlais, on peut pousser évidemment la porte facilement du musée, hein, d'Astrac. Un mot sur d'Astrac.
Ah, sur le peintre d'Astrac, oui, c'est lui qui a donné son nom donc à ce fameux musée. C'était un peintre qu'on dirait post-impressionniste qui est décédé, je crois, en 1969. Et donc on a toujours un fond permanent, mais malheureusement qui se situe à l'étage du musée et pour le moment n'est plus aux normes.
Ah,
parce qu'il y a, vous savez qu'il y a des normes, ça existe.
Il faut un ascenseur bientôt.
Il faut un ascenseur et donc voilà, pour l'instant
c'est un peu compliqué.
Un peu compliqué.
Bon, il n'empêche que le lieu est sympa. Justement, je parlais des pierres tout à l'heure. Un mot là, justement,
c'est une église qui a été restaurée, si vous voulez, qui avait perdu sa toiture, hein, quand même. Donc, elle était dans un piteux état.
Elle est dans le cou du vent.
Et on a eu la chance d'avoir un maire à l'époque qui s'appelait Monsieur Pierre Espiot, qui est décédé aujourd'hui, et qui a souhaité remettre en état ce lieu. Et donc, il y a eu un ourdi qui a été créé pour faire deux étages. Et maintenant, nous avons une salle d'exposition qui est tout à fait magnifique.
Dans les choses que vous allez proposer, d'abord, on a oublié de parler des horaires, parce que ça, c'est important, finalement.
Oui, c'est vrai.
Tous les jours, du 4 au 19 mai, dites-nous un petit peu les horaires.
Alors,
comment on fonctionne?
C'est plutôt du 5 au 19 mai.
Ah oui, parce que le 4,
parce que le 4, c'est l'inauguration. L'ouverture de la biennale se fait le 4 l'après-midi.
C'est vrai.
Et donc, elle va ouvrir vraiment au public le 4, mais à partir de 17h30 jusqu'à 18h30. Et ensuite, ça ouvrira véritablement tous les jours de 14h à 18h, à partir du 5 mai jusqu'au 19 mai, tous les jours de 14h à 18h, grâce à nos bénévoles qui sont là pour tenir la maison. Les trois maisons, les trois lieux.
Les trois lieux.
Et un grand nombre.
Et oui, un grand nombre. Et tant mieux d'ailleurs. Et puis, qui sont tous pas des spécialistes, mais au moins des gens qui connaissent bien les œuvres, qui sont capables d'en parler et qui peuvent dire un peu leur passion et leur envie et faire naître cette passion aussi.
Et ceux qui ne connaissaient pas ont appris, hein. Avec au fil du temps, ils ont appris. Maintenant, ils ont un œil. Ils savent quand une œuvre est intéressante ou quand elle ne l'est pas. Ils savent reconnaître des artistes. On le sait parce que, si vous voulez, depuis une douzaine d'années que nous travaillons sur l'aquarelle, maintenant il y a des gens qui sont complètement passionnés par ce qu'ils font.
On écoute votre dernier choix musical, on se retrouve juste après. Là aussi un mot sur ce que vous avez choisi.
Ah, le choix musical, là, c'est un choix un peu intimiste parce que mon fils travaille avec Wax Taylor, le DJ qui fait des tournées internationales. Et donc, c'est un petit clin d'œil à mon fils.
Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, your attention, please. Your attention, please. Your attention, please.
And now the moment we've been waiting for is here.
I have something to tell you.
Quand le fiston qui travaille avec ce chanteur international à Caen Aiguillon, pourquoi pas pour accompagner la prochaine Biennale, c'est rigolo. Il faudra proposer justement à la mairie d'Aiguillon un projet comme celui-là, associer justement plusieurs formes culturelles. Là, on est sur la peinture, on est sur de la gravure, on est sur de l'estampe. Évidemment, du 4 au 19 mai prochain du côté d'Aiguillon, il faudra y être pour vivre trois lieux exceptionnels, trois ambiances spéciales. Faudra être là pour goûter aussi à la qualité de l'évolution de la ville qui est aujourd'hui devenue une ville attractive dans le sens beauté du terme, mais pas que. Il y avait la ville historique, hein, avec ce château qui fait référence vraiment plus qu'à l'histoire, puisque le duc d'Aiguillon, c'était pas n'importe qui quand même, faut le rappeler. Et voilà, le lycée qui est là et qui est le rassemblement de l'avenir et de la jeunesse. voilà, les entreprises qui font bien leur travail, et puis une équipe dynamique autour du conseil municipal et des outils. Son cinéma, hein, parce que c'est pas rien quand même, une petite ville comme celle-là. Parce qu'aujourd'hui, Aiguillon, c'est
4300 habitants.
4000 habitants. Ouais. Donc c'est pas rien de conserver des lieux de culture comme cela. Et puis surtout que vous êtes plus qu'en soins, vous êtes aussi en développement grâce à toutes ces choses-là. Accueillir une biennale comme celle-ci, vous allez faire des jaloux, non?
Tant mieux,
tant mieux. Des jaloux.
Enfin, j'espère que les gens feront la même chose. Enfin, s'il y a d'autres associations ou qui,
si voilà, ça peut donner de l'envie,
ça peut donner l'envie aux autres d'en faire autant.
D'en faire autant, pourquoi pas. Ouais. Mais après, c'est du travail, hein, c'est du long terme.
C'est du toute l'année terme. Ouais. Moi, je sais que Jackie, personnellement, et nous au niveau de l'asso, je le vois bien au niveau de l'équipe municipale, de la mairie et de Jackie et de son équipe, hein, ils sont là toute l'année parce qu'on est au téléphone pratiquement tous les jours toute l'année, donc au taquet, quoi.
Est-ce que vous avez le droit à la folie un peu ou pas?
À la folie, quelle folie?
À la folie, à l'impossible, nul n'est tenu, à tous ces,
moi je pars.
Au rêve. Est-ce que ça part du rêve tout le temps?
Je crois qu'il faut pas se donner de limites, hein, si on a envie de faire les choses. Vous voyez.
C'est ça, être vivant, en fait.
Bah, tout à fait, absolument, hein.
Il faut pousser, oui.
Quand on a rencontré, nous, les premiers Péruviens qui sont venus à Aiguillon parce qu'il y avait une école d'aquarelle à Arequipa à 2500 mètres d'altitude. Ça fait 12 ans qu'ils viennent. Chaque fois, ce sont des artistes différents. Et puis, ça faisait des années qu'ils me disaient, mais Jackie, viens au Pérou, il faut absolument que tu viennes. Donc, c'est comme ça que j'ai fait des rencontres. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons un partenariat avec l'Université des Beaux-Arts de Cusco.
Un mot sur ce que vous allez proposer. Il y a une liste, j'ai sous les yeux là une liste exceptionnelle finalement. L'association William Beck France. Vous nous rappelez un peu qui se situe et qui un peu le pas l'historique total de chaque individu, parce que là, il y aurait de quoi faire. Mais...
Il y a de quoi faire, ouais. C'est un petit peu long. Bon, il y a les têtes d'affiche qu'on appelle les têtes d'affiche, bien sûr, comme ça, Salvador Dali. Bon, on a choisi une œuvre que Dali avait réalisée. Et d'ailleurs, il a fait une exposition qui était à l'hôtel de Meurice en novembre 67, qui était un grand maître maçonnier, qui s'appelait d'ailleurs Hommage à Maisonnier. Donc, on a une de ses œuvres, qui est d'ailleurs celle-ci, qui était encadrée. Des années à l'hôtel Monsieur, donc qui part à Aiguillon. Donc Hommage à Maisonnier, Dali, qui était un grand maître français. Bon, bref, on a un portrait, un peintre de Picasso. Bon, les environs de Rome de Camille Corot. Bon, ça c'est des grands maîtres français. On a un artiste chinois, bon, qui est un grand philosophe aussi de gravure sur bois, qui est Xiang Moy, qui est des années 30-40, qui était un grand maître américain, chinois américain, New York, qui est dans les grands musées, Alphonse Le Gros bien entendu, Jacques Boulaire de Tahiti, des îles, qui est un peu l'équivalent de Gauguin dans le même style, ça s'appelait. On a des grands maîtres, les graveurs français très connus, comme Philippe Lebas, ok. On a bien sûr Paul Madonna, je l'ai dit tout à l'heure. On a aussi, comme l'a expliqué si bien Jackie tout à l'heure, il y a plein de techniques. On a aussi des gravures qui sont finies à la main, peintes à la main. Et là, par exemple, on a le Schooner, un grand bateau, parce qu'il y a beaucoup chez les Français particulièrement, et les Américains, la gravure, les sujets marins sont très appréciés. Donc là, on pouvait pas mieux tomber. On a une œuvre finie à la main, gravure et finiment de Louis Le Breton, qui est quand même dans les musées de France, dans le monde entier. Et puis des artistes anglais, des artistes allemands. Donc on a choisi vraiment les quatre coins du monde, différentes périodes, 18e siècle, 17e siècle, 19e et 20e. Mais décédés, puisqu'on reste sur les maîtres.
Et autant d'écoles, hein.
Et autant d'écoles, voilà. Et bien en plus, on a été en fonction de la place qu'on a. Donc on a tenu compte de tout ça. On est sensible à ça. Hein. Donc style, époque, pays, on veut qu'un maximum soit représenté. Des grands maîtres, connus dans les grands musées. tous les artistes qu'on présente nous sont dans les plus grands musées au monde. Point.
Pour le Béotien, hein, que je suis notamment, vous nous rappelez un peu ce que l'un et l'autre, ce que le distinguo, ou plutôt l'association qu'il y a entre gravure et estampe.
Alors ça, c'est un distinguo qui est un petit peu compliqué à expliquer, mais je vais essayer de vous l'expliquer. En fait, ce qu'on pourrait appeler gravure, c'est le fait de graver, voilà, sur un support, sur une matrice. Et lorsqu'on va, enfin moi je l'explique comme ça, mais bon, il y a d'autres, il y a plusieurs écoles, hein, et lorsqu'on va passer donc le papier, on va d'abord ancrer ce support, on va poser une feuille dessus, et ensuite on va le passer sous une presse. Et lorsqu'on va on va obtenir ensuite une estampe, c'est-à-dire qu'on aura une image à l'envers de la gravure, c'est ce qu'on appelle une estampe.
Alors, il y a eu un phénomène qui est assez important aussi, qui a été au XXe siècle, qui n'était pas très vieux, mais au début du XXe. On a vraiment cassé le japonisant avec l'estampe. Et on a voulu avoir une tendance, et une erreur, mais ce n'en est pas une non plus, où on parlait beaucoup de l'estampe japonaise, de l'art asiatique, donc, qui est en général gravure sur bois, mais on a la gravure aussi traditionnelle américaine française qui est sur bois, comme sur cuivre, sur plein d'autres matériaux.
La pierre,
bien entendu, et plusieurs techniques, et sur du métal classique. Donc, si vous voulez, il y a cette confusion. Mais en fait, estampe et gravure, c'est la même famille. Ouais,
ok? C'est
les œuvres sur papier, gros.
Voilà.
Mais le japonisant et cette idée d'estampe a souvent été liée par les maisons, les sociétés, les historiens, à la gravure japonaise. Alors, en fait, ce que tu dis est vrai. C'est pour ça qu'il y a différentes écoles. Mais en fait, c'est la même chose. C'est les techniques.
Et
comme tu l'as expliqué tout à l'heure.
Et dans le vocable gravure, il n'y a pas que de la gravure. C'est pour ça que c'est compliqué. Parce que vous avez, par exemple, la lithographie.
La lithographie, c'est encore autre chose.
Ça fait partie de la gravure.
Et elle fait partie de la gravure.
Voilà,
tout à fait.
Voilà.
Alors, en termes de modernité, d'outils, moi je pense à l'informatique avec les systèmes numérisés.
Tout à fait.
Est-ce que là, aujourd'hui, ces outils-là servent le...
Absolument, vous avez mis le point exactement où il faut le mettre.
Oui, on dérive.
Vous allez avoir, par exemple, avec Jean-Luc Fauvel, qui est professeur de gravure aux Beaux-Arts à Toulouse, il va amener ses propres gravures.
Machine.
Et il a fait des gravures numérisées. Voilà. Donc c'est ce qu'on fait de plus récent, si vous voulez, au niveau de la gravure. Voilà. Et donc vous aurez des œuvres qui sont magistrales
et qui sont pas de moindre qualité. Attention, parce que nous avons des grands maîtres, bon, Christian de Cambière ou autre, Paul Madonna que tu as vu, et des contemporains qui ont jeté des techniques par l'informatique et tout. Ce n'est pas si simple que ça. C'est très complexe.
Non,
il faut vraiment être, je dirais, presque érudit. En plus, d'ailleurs, Dali le disait. Celui qui touche à la gravure, Picasso aussi, quand il s'est mis à la gravure.
Oui.
Quand on commence, il faut quand même être, excusez-moi, mais élite, comprendre, c'est quand même une science. Mais je me souviens encore de Rodin qui demande à Alphonse Le Gros, dit j'ai envie, mais Rodin qui demande à Alphonse Le Gros de lui expliquer la gravure, c'est hyper compliqué. C'est sûr. Non, on en parle.
Alors que lui, il est sculpteur et c'est pareil.
Donc les techniques évoluent, mais intellectuellement aussi, il faut évoluer. Voilà.
Il faut suivre.
Et moi, je vous invite le 26 mai, il y a la fête de l'estampe, la fête de la gravure en Europe. Hein, le 26 mai, et je vous invite à aller visiter des ateliers de graveurs parce que c'est comme ça que vous comprendrez comment
il y en a un peu en Lot-et-Garonne ou pas?
Il y en a bien sûr.
Ben écoutez, voilà, une belle aventure qui commence et à laquelle on vous convie, amis auditeurs. Il faudra être donc présent du 5 au 19 mai prochain à Aiguillon, dans le cadre de cette biennale internationale, la deuxième du genre de la gravure à l'estampe, j'allais dire. Mais je crois que je ne me trompe pas beaucoup. Merci, madame, merci, messieurs, d'être venus à notre micro pour nous conter la belle histoire de cette belle aventure.
Merci.
C'était une émission événementielle qui vous est proposée ce soir par Gérard. La technique Valérie nous accompagnait. À la semaine prochaine.